la guerre intérieure d'Hamas, c'est-à-dire que un branche qui était dans le Gaza, il critiquait l'autre branche qui était au Qatar dans l'hôtel, que vous gagniez l'argent. Donc les Iraniens, ils ont manipulé ceux qui étaient au Gaza sur place, donc ils ont lancé cette guerre-là. Et ça, c'est première étape. On n'a pas le temps, non ?
Juste pour préciser, il est 20h, normalement on finit à 20h, mais je suis allé voir, il y a des Noirs qui nous laissent 5 minutes et vous retrouverez des Noirs dans 5 minutes. Voilà.
D'accord. Bah, après, je termine. Tout le monde pensait que la guerre va commencer de côté frontière libanaise, sauf que Hezbollah de Liban, c'était les dernières cartes de l'Iran qu'il va utiliser. Ils n'utilisent pas Hezbollah comme ça pour contrer Israël, et ils ne volent pas, en fait. Liban n'était pas en mesure de faire une guerre contre Israël, et les Israéliens ne volent pas, les Iraniens ne volent pas que Hezbollah se mêle de cette guerre-là. Donc, ils ont trouvé les outils, comme vous dites, pour lancer cette guerre-là. C'est-à-dire que les outils, ils ont balancé le missile depuis Yémen sur la frontière israélienne. Après, ils ont dit que non, ça ne marche pas. Donc, ils ont attaqué des navires dans la mer Rouge pour créer une situation de conflit. Encore, les Européens, les Anglais, ils ont dit qu'on va contrer cette attaque-là et ça ne marche pas.
Une dernière petite question, moi, qui me semble importante, parce que tu l'as évoquée tout à l'heure. Mais effectivement, on sent quand même une très grande tension qui n'est pas récente entre l'Iran et l'État israélien. On a vu pour preuve les récentes frappes israéliennes en Syrie contre des hauts dignitaires iraniens qui faisaient leur réunion là-bas en Syrie. Et cette animosité de l'Iran contre Israël, est-ce que l'État iranien soutient le peuple palestinien et est solidaire du traumatisme qu'il est en train de vivre?
Ben non, je pense que un des problèmes majeurs du peuple palestinien, c'est l'État iranien. Ça, c'est... Et non, il soutient pas. Ils utilisent le peuple palestinien, l'idée de Palestine libre, dans leur calcul politique. Sinon, le peuple palestinien, je pense qu'ils sont prisonniers d'un côté de Hamas et leurs dirigeants, et de l'autre côté des politiciens de Moyen-Orient. Ils ont perdu parmi tous ces gens-là, je pense.
Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés, c'est la fin. Merci à Idénoir de nous avoir lâché quelques minutes. Écoute, on va le temps de faire la transition avec Idénoir, on va s'écouter la musique, ou en tout cas un bout de la musique que tu avais choisi. Et à la semaine prochaine.
Voilà, rappeur iranien emprisonné, relâché, remis en prison. اقتصادی که برتره چطوری فربه چطوری قدرت منطقه چطوری قره معتبرترین پاسپورت چطور مرزت خاک فروش دریا فروش چطوری هرزه چطوری دکوری جیره بده بجویم جوری با پارفتی توش که نمیتونی بشوریش صفشی رو ندیدی تو زندگی ژتونی قبل سخرانی کره بزن تا که ببری بی آلا و بالی جیب خالی پوزه عالی مسموم فاسه تبله تو خالی اگه حکومت دینی چرا نوکر چینی چرا اما میکنی باج به دشمنت میدی صراط المستقیم چرا همش منحرف میشی چرا تنابه داره تو مدام معتقد میدید تو چطوری بره چطوری برده غلام مطیه همیشه حاضر تو صحنه از نون نظام بگو مالکی که فله چطور We'll be right back.
Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, avec quelques minutes de retard, comme tous les mercredis, de 20h à 21h. C'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios, on vous le disait. Comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On est avec quelques petites minutes de retard parce que sujet international et invité fort intéressant sur le Canu Info juste avant, pour quasiment une heure à cette antenne, une heure d'analyse sociale, politique, libertaire, vu par les militantes et militants de l'UCL, une émission où on va aborder pas mal de choses et pour laquelle on voulait commencer avec un petit point de soutien parce que l'Union Communiste Libertaire apporte tout son soutien à l'action d'envergure qui a été lancée par le collectif Jamais Sans Toi le 12 janvier dernier pour mettre à l'abri 60 enfants et leurs familles qui sont répartis sur 12 groupes scolaires de la ville de Lyon. Le collectif Jamais Sans Toi, c'est ces collectifs de parents, enseignants, soutiens, familles qui luttent contre le fait qu'il ne doit pas y avoir d'enfants scolarisés qui dorment à la rue, que le droit à l'éducation est un droit essentiel et que pour avoir accès à ce droit-là, on ne peut pas accéder à une éducation émancipatrice lorsque on passe sa nuit sous une tente, dans une voiture, sous un pont, dans des situations de dénuement et de précarité extrême, et que c'est malheureusement bien trop fréquent. Cela fait en fait plus de 10 ans que la situation dure et empire sur la métropole de Lyon. Chaque année, le collectif Jamais Sans Toi, soutenu par différentes organisations syndicales de l'éducation nationale, organise des actions de soutien et d'occupation pour mettre donc au chaud et à l'abri des enfants qui sont scolarisés et pourtant qui sont à la rue ainsi que leurs familles. Et ce collectif, comme on le disait, qui est composé d'enseignants et enseignantes, de parents et de soutiens, agit à la place de l'État et des collectivités publiques, que ça dérange pas de laisser un certain nombre d'enfants à la rue, et parce que il y en avait assez en ce début 2024, en plein milieu d'hiver, de devoir bricoler dans différents groupes scolaires pour faire des cagnottes solidaires afin de payer des nuitées d'hôtel pour certaines familles, afin d'occuper des gymnases ou des écoles pour pouvoir les mettre au chaud et à l'abri. Le collectif Jamais Sans Toi a décidé de faire une action d'envergure et a décidé d'occuper une ancienne école désaffectée dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Vaise, comme on vous le disait, pour pouvoir mettre à l'abri 61 enfants et leurs familles qui dormaient donc à la rue. Et on peut que appeler à soutenir cette action exemplaire et puis relayer les suites de la mobilisation. Ce dimanche, par exemple, ce week-end, pardon, il y avait un goûter solidaire qui était organisé et on peut que soutenir toutes ces actions de solidarité qui sont menées parce qu'on est finalement tous concernés et on peut dire que les militants et militantes de l'UCL relayeront où ils le peuvent cette initiative et que par exemple aussi notre librairie La Plume Noire peut être un lieu qui peut organiser des événements de soutien, notamment financiers, pour aider le collectif pour faire face à l'accompagnement des enfants et de leurs familles. Parce qu'on le redit, il ne doit pas y avoir d'enfants à la rue. Un toit, c'est un droit, tout comme le droit à être scolarisé. Et on ne peut que souligner cette initiative, cette action directe qui a été menée par le collectif Jamais Sans Toi, qui donc occupe depuis le 12 janvier dernier une école désaffectée dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon, pour mettre à l'abri donc 61 enfants scolarisés sur l'agglomération et pourtant à la rue ainsi que leur famille. De même, parce que souvent les situations de précarité, les situations de mal logement et le fait de se retrouver scolarisé à la rue se conjuguent avec d'autres discriminations et d'autres formes d'oppression. On veut faire un petit point sur la question des mineurs isolés, des migrants, des jeunes migrants mineurs isolés. Bien souvent, parmi ces familles dont on a parlé qui se retrouvent à la rue, ben, beaucoup d'entre elles le sont parce qu'elles sont dans une situation de précarité qui se décline à plusieurs niveaux, et y compris c'est pas simplement la précarité du logement, mais c'est aussi la précarité de leur situation administrative, et que s'ils n'ont pas de logement, c'est parce que souvent pas de travail, mais pas de travail aussi parce que pas de papier, pas de situation de pouvoir être en situation régulière pour pouvoir prétendre à un logement social et pour pouvoir travailler. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation là, c'est les jeunes mineurs isolés. Ils sont nombreux sur Lyon, notamment à la Croix-Rousse. Vous pouvez les voir au quotidien si vous passez par la montée de la Grande Côte, où ils ont installé leur tente, où ils passent l'hiver au froid sous tente. Comme ils le disent, ils ne sont pas dangereux, mais c'est eux qui sont en danger, et ils appellent au soutien et ils interpellent la métropole qui avait promis, pourtant cette métropole soi-disant sociale, écologiste et de gauche, qu'il n'y aurait plus de jeunes enfants scolarisés à la rue, comme plus de mineurs isolés qui seraient à la rue. Et bien pourtant ils sont plusieurs dizaines à dormir sous les tentes dans les jardins de la montée de la Grande Côte à Lyon. Et puis ils étaient aussi près d'une centaine de jeunes migrants, essentiellement issus d'Afrique de l'Ouest, qui vivaient dans un campement qui était installé dans le square Sainte-Marie-Perrin, rue Garibaldi, dans le 3e arrondissement. Alors le choix de ce square n'avait pas été fait au hasard, puisqu'il était à deux pas de la métropole de Lyon, et que le but était bien évidemment d'interpeller la métropole de Lyon sur les situations de détresse de ces jeunes mineurs isolés, de ces jeunes migrants. Et ils étaient là-bas depuis avril, dans ce square Sainte-Marie-Perrin, où ils vivaient dans des tentes, et ils espéraient être reconnus, en attente d'être reconnus par les services sociaux et par la justice comme jeunes mineurs isolés, sauf qu'ils ont été pour la plupart confrontés au mutisme et à l'inaction de la métropole de Lyon, qui les a laissés perdurer dans cette situation, et qui plus que ça a laissé procéder récemment à l'expulsion de ce campement. Et suite à l'expulsion de ce campement, un certain nombre de jeunes ont pu être logés, mais 31 mineurs qui sont actuellement en situation de recours administratif se retrouvent à la rue, se retrouvent sans abri après le démantèlement de ce square Sainte-Marie-Perrin, et ils ont été contraints finalement d'installer un nouveau campement dans un square municipal dans le 7e arrondissement de Lyon, un peu plus isolé, un peu plus dans l'anonymat, et toujours en attente de réponse et en situation de prise en charge de leur situation de mineur isolé et éventuellement de régularisation. Voilà ce qu'on voulait souligner sur le front des mineurs isolés, sur le front des migrants, sur le front de ceux qui dorment à la rue. Tout ça à l'heure où, bien sûr, on en reparlera. L'État et le gouvernement est en train de faire passer une loi raciste et xénophobe et antisociale, cette fameuse loi immigration et contre le droit d'asile, pour lequel on a été des dizaines de milliers à descendre dans la rue ce dimanche 21 janvier. Une belle manifestation à Lyon avec plus de 5000 personnes pour dire non à cette loi, pour s'y opposer, pour dire non au racisme d'État qui s'installe et qui s'instaure aujourd'hui, et qui tout simplement fait le jeu de la xénophobie et de l'extrême droite en validant l'idéologie du Rassemblement National et d'autres mouvements d'extrême droite, et peut-être des lois qui vont avoir des conséquences extrêmement graves pour la plupart des personnes immigrées. Un véritable racisme d'État contre lequel il faut être capable de rester mobilisé. On en reparlera peut-être si on a le temps à la fin de l'émission, mais différentes associations sociales ont montré qu'avec la loi immigration, ça serait plus de 100 000 personnes, dont 30 000 enfants, qui dans les mois qui suivraient la mise en place de cette loi, basculeraient dans la pauvreté en perdant leurs droits, en basculant en dessous du seuil de pauvreté. Voilà de quoi être particulièrement inquiétant, et bien à l'opposé de ce pour quoi on lutte, un monde plus juste, plus égalitaire, plus solidaire, quel que soit notre carte d'identité, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau. C'est nous ce qu'on veut mettre en avant, et ce pourquoi on essaie essaye de se battre au quotidien. C'est pour ça qu'on sera solidaire avec ceux qui seront victimes de cette loi immigration. C'est pour ça qu'on est solidaire avec ces jeunes migrants, ces jeunes mineurs isolés, expulsés, et qu'on est solidaire avec le collectif Jamais Sans Toi, qui mène des actions pour qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue, que, comme on le disait, un toit, c'est un droit. Voilà, c'est avec cette page d'actualité qu'on voulait commencer cette émission Idées Noires. On vous le rappelle, l'émission de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire, sur ce 102.2 de Radio Canu. On va faire une première pause musicale, et puis on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne, où ce week-end d'ailleurs aussi, il y a eu plus d'1,5 million de personnes qui sont descendues dans la rue pour dénoncer la résurgence de la peste brune, pour lutter contre le retour des idées racistes, xénophobes et même néo-nazis. On peut que le féliciter. On va faire un petit tour du côté de l'Allemagne pour pas parler de cette, spécifiquement de cette mobilisation qu'on évoque et qu'on peut saluer, mais pour parler de ce qui se passe du côté de chez leurs agriculteurs, qui fait bizarrement écho aussi à ce qui se passe en France. Et ça nous permettra d'aborder les deux points, voir ce qui se passe en Allemagne du côté des mobilisations des paysans, et puis on fera un petit point aussi sur les mobilisations tout à fait récentes qui se déroulent en France aussi de la même manière. Première pause musicale qui fait écho aux mobilisations antifascistes et antiracistes en Allemagne, les Chumba Wamba avec le Enough is Enough, assez c'est assez de la résurgence du racisme.
Get this damn thing done, it can't done. Come shoot the fascists with a gun, cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just fanatic insanity. Fusion cannot stand it, see. No man, fascist man will ever get me out of the land. So understand, fusion plan to stop them with a bang. We sang and sang to make the people all unite. Not fight, but fight because the leaders don't think right. You built us in the past, you know it won't happen again. So black and white, take a stand and I'll try to defend. Out of the people and the children who are living in the past. Just blast and blast, don't make the fascist man last. I want to wake up.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Comme tous les mercredis soirs, on vous le disait, de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute d'Idées Noires, l'émission du groupe local de Lucelle, l'Union Communiste Libertaire, et après Chumba Wamba et leur Enough is Enough contre la montée de l'extrême droite. On vous avait dit qu'on allait faire un petit tour en Allemagne où des centaines de milliers, plus d'un million et demi de personnes sont descendues dans les rues ce week-end contre l'extrême droite, mais en Allemagne aussi, où comme chez nous, les agriculteurs se mobilisent. Le monde paysan est en lutte.
Oui, on va ouvrir donc la première des pages internationales de cette émission avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a toujours eu cette réputation d'être un pays austère. Mais l'austérité en ce moment en Allemagne, c'est pas juste une façon d'être, c'est aussi un projet économique. C'est le projet économique, pour être plus précis, de la coalition gouvernementale. Une coalition qui porte le nom d'Ampel, qui signifie de manière très littérale « feu tricolore ». Un surnom qui trouve son origine dans les couleurs politiques des partis qui la composent, puisqu'on y retrouve les verts, pour la couleur verte, hein, ça semble logique, le jaune pour les libéraux et le rouge pour... là, ça pose un peu plus de questions, puisque le troisième parti est social-démocrate, mais bon, admettons. Cet agenda gouvernemental souhaite donc, comme ici en France, économiser à tout prix. Et si cela touche tous les salariés, il y a un secteur tout particulier là-bas, comme ici en France, qui gronde en ce moment. Tu l'as dit, c'est celui de l'agriculture. Les graines qui ont fait pousser ce champ de contestation, ce sont deux subventions supprimées. Ici en France, beaucoup à gauche semblent avoir du mal à se positionner sur ce qui se passe chez nous. On est timide évidemment à l'idée de vouloir soutenir un mouvement lancé par la FNSEA, qui est avant tout un syndicat de patrons et de grands exploitants. Mais pour nos camarades de 10 plateformes, organisation anarchiste d'Outre-Rhin, la question ne s'est pas vraiment posée. Il faut soutenir les travailleuses et les travailleurs avant tout, en restant évidemment vigilant aux récupérations politiques, notamment celles situées les plus à droite, parce que chez nos camarades germaniques aussi, l'extrême droite prend de plus en plus de place et de pouvoir. Je vais donc vous lire une partie du communiqué de 10 plateformes, communiqué que nous avons traduit et publié dans son intégralité à l'UCL pour notre prochain numéro d'Alternative Libertaire. Je me permets un petit spoil au passage. Voilà donc ce que disent nos camarades. L'agenda d'austérité du gouvernement n'est pas seulement dirigé contre les salariés. La suppression de deux subventions dans l'agriculture, le remboursement du diesel agricole et l'exonération de la taxe sur les véhicules, touchent durement les agriculteurs. Alors que les grandes exploitations peuvent encore faire face à quelques milliers d'euros manquants, les petites fermes sont parfois gravement menacées. Pourtant, le quotidien des petits exploitants agricoles et de leurs salariés est déjà marqué depuis des décennies par le surmenage et les conditions de vie de travail précaires. Contrairement à ce que prétend le gouvernement, la suppression des subventions ne contribue en rien à la protection du climat. La suppression des subventions ne réduit pas non plus les émissions polluantes, mais augmente par contre la charge économique des petits agriculteurs. En résulte une précarisation accrue, pouvant aller jusqu'à la possibilité de grandes vagues de licenciements. Une transformation écologique de l'économie est nécessaire de toute urgence, mais elle ne sera vraiment possible que dans une société qui oriente la production et la distribution en fonction des besoins et de la compatibilité écologique plutôt que de la maximisation des profits. La transformation écologique doit être réalisée par le bas, de manière démocratique, à la base, par des exploitantes et exploitants modestes qui collectivent les exploitations et se fédèrent au niveau régional avec d'autres exploitations, branches et communes. Nous ne nous faisons pas d'illusions, cette perspective n'est pas partagée par la plupart des agriculteurs concernés. Ils se mobilisent actuellement surtout pour défendre leurs intérêts économiques directs. De plus, outre les secteurs bourgeois de droite, ce sont les forces politiques ouvertement réactionnaires, de l'AFD aux forces néo-nazies, qui passent à l'offensive afin d'exploiter la colère des agriculteurs contre le gouvernement Hempel pour leur propre profit politique. Le fait que les forces progressistes soient relativement faibles est dû au fait que la gauche radicale s'est désinvestie en grande partie du secteur de l'agriculture au cours des dernières décennies, mais le moyen le plus prometteur de changer cela est de se solidariser avec la protestation des paysans, de s'y joindre activement, d'y renforcer les positions progressistes et d'en chasser les réactionnaires. Nous sommes toutefois conscients que la paysannerie n'est pas une masse homogène. Notre solidarité va avant tout aux petits paysans dont l'existence est menacée et bien sûr aux salariés des secteurs concernés. Nous saluons le fait que les travailleurs agricoles, par le biais de leur initiative syndicale sectorielle, appellent à soutenir les prochaines manifestations et le font déjà par endroits. Soyons présents en tant que membres de syndicats, militants écologistes ou tout simplement en tant que travailleuses et travailleurs solidaires. Diffusons notre perspective anticapitaliste et écologique et repoussons les récupérations réactionnaires ainsi que les positions bourgeoises. Voilà donc pour le communiqué de l'organisation anarcha-communiste allemande Die Plattform. Ils ont un site internet très actif, mais malheureusement en allemand. Donc si vous voulez retrouver ce communiqué dans son intégralité, ben, vous pouvez le lire dans notre prochain numéro d'Alternative Libertaire, notre journal mensuel, qui est trouvable dans certains kiosques, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez venir le chercher à la Plume Noire. On en a quelques exemplaires au show qui vous attendent. Plus Noir, on va le rappeler, hein, qui est ouverte les mercredis de 17h30 à 19h30, juste avant cette émission, et les samedis de 15h à 19h.
Et qui se trouve 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement de Lyon. Voilà, une bonne occasion pour passer à rencontrer les militantes et les militants du CL, discuter, s'informer, récupérer tracts, brochures, journaux, livres, etc., etc. Eh ben, je crois que ce que tu viens de dire par rapport à la situation de l'agriculture en Allemagne pourrait facilement être transformé et adapté à la situation en France.
Ça se ressemble beaucoup, j'ai l'impression, et je pense que les organisations de gauche risquent de s'inspirer de ce genre de communiqué pour leur propre communiqué.
Exactement, puisqu'on a l'impression qu'on se retrouve face aux mêmes problématiques, aux mêmes problématiques d'un monde paysan et agricole qui est aujourd'hui en crise en France, en crise et en colère. On peut rappeler tout simplement que le nombre de paysans en France n'a cessé de baisser. Il y avait quand même plus d'un million et demi de paysans en 1982. Il y en a plus que 400 000 au début des années 2020. Et que depuis les 10 dernières années, c'est 100 000 fermes qui ont fermé en France. Pourtant, l'horizon d'un million de paysans en France qui pourraient vivre de leur métier dans la dignité serait ce qui permettrait de produire une agriculture saine et propre et qui répondrait aux besoins alimentaire de la population sans aucun problème. Mais l'objectif, c'est pas celui-ci. L'objectif, c'est celui d'une politique agro-industrielle qui est basée sur, bien évidemment, comme tu l'as décrit, le système capitalisme, la recherche du productivisme et bien évidemment une agriculture de masse pour la grande distribution qui assure des profits les plus importants à la grande distribution et qui permet aussi l'exportation des productions agricoles, puisqu'on sait que l'agriculture est un des premiers postes de la balance commerciale extérieure de la France et que l'exportation agricole est quelque chose d'important et que pour ça, on est dans une logique productiviste qui vise à produire le plus possible. Ce qui laisse bien souvent sur le carreau de nombreux paysans qui ont eu le malheur de s'engager depuis des décennies dans cette logique de l'agriculture productiviste, qui sont tenus par les prêts au crédit agricole pour l'endettement, pour les machines et autres, qui sont tenus par les subventions de la PAC au niveau européen, de la politique agricole commune, et qui sont tenus par le monopole de la grande distribution qui leur achète ces produits qui sont des produits de base qui vont être ensuite transformés par l'industrie agroalimentaire, par des grands groupes tels Nestlé, Danone ou bien d'autres encore, et qui ne cessent de faire pression sur le coût des matières premières, que ça soit le lait, le blé, les céréales ou autres productions agricoles. Et les paysans ont de plus en plus de mal à pouvoir vivre dignement de leur travail, de pouvoir tirer un revenu, alors que pourtant, tout le monde s'en rend compte au quotidien, quand on fait nos courses, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les magasins, on se rend compte que la soi-disant inflation, elle fait flamber les prix, elle fait flamber en premier lieu les prix alimentaires, mais cette inflation, elle bénéficie pas aux paysans, elle permet pas aux paysans de mieux vivre, elle permet tout simplement aux grands groupes de l'industrie agroalimentaire et surtout aux intermédiaires de la grande distribution, une fois de plus, de s'en mettre plein les poches sur les consommateurs, sur ceux qui travaillent et qui doivent dépenser chaque jour un peu plus de part de leur salaire qu'ils ont gagné pour pouvoir se nourrir correctement, et sur le travail des agriculteurs sur lequel il y a cette pression. Et donc la colère des agriculteurs aujourd'hui, elle est tout à fait légitime. Ces agriculteurs qui organisent des blocages, qui bloquent les routes, les autoroutes, qui parfois le font au péril de leur exploitation agricole, parce que quand on est agriculteur et notamment éleveur, des bêtes, ça part pas en vacances, ça s'arrête pas, on n'appuie pas sur stop de la machine. Des vaches, faut les traire une fois ou deux fois par jour, faut les sortir. C'est la même chose avec d'autres animaux, et que pouvoir mener la lutte et quitter son exploitation, c'est pas permis à tout le monde, et ça demande de continuer à travailler, d'organiser la lutte en même temps. Et puis parfois, ils le font aussi au péril de leur vie, avec les drames tels celui qui s'est déroulé en Ariège, cet accident mortel qui a emporté une agricultrice en ce début de semaine. Tout ça qui révèle aujourd'hui clairement la détresse des agriculteurs. Nous, ce qu'on voudrait dire, c'est que la crise du monde agricole, elle est liée au système capitalisme, au système productiviste et à la recherche effrénée de la course au profit permanente et au productivisme, et qu'il ne faut pas que les agriculteurs se trompent de colère. Là aussi, comme tu l'as dit Rémi, par rapport à l'Allemagne, on voit que toutes les forces politiques de gauche comme de droite et jusqu'à même l'extrême droite y vont de leurs petits mots de soutien aux agriculteurs, pour certains victimes de l'Europe, pour d'autres victimes du capitalisme, pour d'autres de la grande distribution, et que bien souvent certains discours qui sont portés par le gouvernement, qui est allé aux multinationales et qui parfois a les mêmes intérêts que la fameuse FNSEA, qui est le grand syndicat agricole paysan, mais qui est pieds et poings liés avec les politiques agricoles communes de la PAC et de l'Union européenne, des subventions et l'agriculture productivise, amène les agriculteurs à tourner leur colère contre, par exemple, des attentes dans une transition agricole qui serait en lien avec les exigences liées au réchauffement climatique, à la transition écologique et autres, avec des attentes contre soi-disant les normes qui seraient liées aux nouvelles normes écologiques, etc. Et nous, on voudrait rappeler que l'ennemi pour les agriculteurs, il n'est pas là. L'ennemi, c'est bien le capitalisme et l'industrie agroalimentaire et la recherche du productivisme en permanence, que aujourd'hui le monde agricole, il est dans une impasse productiviste, que la réalité de la crise agricole, en fait, elle découle en réalité de la poursuite inexorable du projet néolibéral de l'agriculture, c'est-à-dire un marché mondialisé où on fait circuler les produits agricoles aux quatre coins de la planète et on fait venir ceux dont le coût est le moins cher et qui permettront d'assurer les marges les plus importantes aux industries agroalimentaires, des firmes qui prennent le contrôle des principales productions, et bien souvent au mépris de l'environnement et des équilibres écologiques, et que le choix délibéré de réduire le nombre de paysans pour ne plus garder en fait qu'une minorité d'agri-managers qui possèdent de vastes terres extrêmement mécanisées, où ils se déplacent parfois en hélicoptère en utilisant des pesticides et autres engrais chimiques et en employant une main d'œuvre prolétarisée et souvent immigrée, comme on peut le voir à Almeria dans le sud de l'Espagne, est une impasse, tandis qu'à côté de ça subsiste une frange d'agriculture d'agriculteurs qui soit vivotent, soit n'ont que niche pour pouvoir vivre, de fournir des produits de haut de gamme, souvent estampillés bio ou autres labels, pour ceux qui ont les moyens de les payer, pour les classes sociales qui peuvent se permettre de pouvoir faire des choix alimentaires et d'entre entretenir cette petite minorité d'agriculteurs qui pourtant devrait être un modèle pour l'ensemble de la population, y compris les classes populaires qui veulent vivre et consommer sainement et non pas être victimes des aberrations à la fois écologiques et en termes de santé. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui on est engagé dans une impasse productiviste, une impasse d'autant plus folle qu'elle néglige profondément les questions du changement climatique, les questions de l'érosion de la biodiversité et dont les effets sont pourtant de plus en plus forts chaque année. On le sait que toutes les alertes ont été lancées depuis un certain nombre d'années le fait de développer une agriculture biologique, respectueuse des territoires et qui soit aussi créatrice d'emplois et qui permette de faire vivre des agriculteurs dignement de leur travail est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Et cette revendication, elle est bien loin des complexes aussi bien gouvernementaux, agro-industriels, européens et sous parfois de la FNSEA qui est attachée aux subventions européennes liées aux grandes productions agricoles contre lesquelles on ne peut que s'élever. On ne peut que s'élever contre l'industrialisation croissante de l'agriculture, la mise en place par exemple aussi de nouveaux OGM, ces fameux organismes génétiquement modifiés qui visent là aussi à accroître la productivité, la mise en place, on en a souvent parlé comme Alcinte-Soline dans cette émission, des méga-bassines qui ont pour but de favoriser l'accès à l'eau pour de grands exploitants dont les productions sont tournées vers l'exportation, et puis aussi l'agriculture qui est tournée vers des productions végétales qui ont pour but de fournir de nouveaux carburants, notamment pour les avions qui sont souvent arrosés par des pesticides et qui sont destructeurs sur le long terme et qu'on sait très bien qu'ils vont nous enfermer dans une impasse. Donc aujourd'hui, les revendications du monde paysan, elles sont légitimes. La revendication du monde paysan, elles sont légitimes, mais on le redit, ne nous trompons pas de colère, camarades paysans. La colère, elle n'est pas contre la transition agricole qui est nécessaire au même titre que la transition écologique. Elle n'est pas contre la question écologique qui est quelque chose de salutaire aussi bien pour le monde paysan comme pour les consommateurs, mais elle doit se tourner contre, une fois de plus, le capitalisme, l'industrie agroalimentaire et cette recherche folle et effrénée, constante, du rendement et du profit qui est celle de l'industrie capitaliste.
Et d'ailleurs, en Allemagne, l'AFD, le parti d'extrême droite, a déjà fait le lien entre immigration et la condition précaire des paysannes et paysans, sachant que, comme en France, ils utilisent beaucoup de main-d'œuvre étrangère, immigrée, voire sans papier. On l'a vu nous aussi en France cet été avec les vendanges où il y a eu pas mal de cas comme ça, donc on peut parier que le FN, si c'est pas déjà fait, va aussi essayer de jouer cette carte pour attiser la colère. Donc prudence.
Alors qu'on sait très bien que les immigrés sont une main-d'œuvre exploitée, exploitable à merci dans les travaux saisonniers. Voilà ce qu'on voulait dire par rapport à cette crise agricole qui s'exprime par la colère en France, mais pas que, partout en Europe, en Allemagne aussi, on vient de le voir. On parlait de l'extrême droite en Allemagne, et bien justement, tiens, on fait une deuxième pause musicale avec les Stage Bottle qui, à propos de la montée de l'extrême droite, nous parle de Millions of Stupid People.
Men's up. everything's possible. They're following stupid leaders like sheep. They think they've got the choice, but they don't realize, 'cause they are fucking stupid. Around
de retour sur Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, du groupe local lyonnais de l'UCL. Et c'est pas souvent, mais on va ouvrir une petite page culture avec la camarade Céline. Tu vas nous parler d'un documentaire qui nous vient de Belgique. Ça.
Tout à fait, je te remercie Rémi. Donc ce documentaire s'appelle Le Ballet Libéré, donc ça relate l'expérience autogestionnaire de travailleuses belges dans les années 70 et c'est également le titre du film documentaire de Colline Grandeau. Il est sorti en France en décembre de manière assez discrète je dirais et il a été projeté en fait le week-end dernier à la MJC du Vieux Lyon dans le cadre de la Nuit du Cinéma Militant et c'est là où je l'ai découvert. La réalisatrice, Colline Grandeau, c'est une jeune réalisatrice d'une trentaine d'années qui est née à Paris et qui a grandi à Marseille et ensuite qui a fini ses études en Belgique où elle est diplômée de l'Institut des Arts de Diffusion, l'IAD, une école supérieure des arts belges dans le domaine des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication. Alors vous allez vous demander pourquoi je vous parle de son parcours, notamment j'insiste un petit peu sur l'Institut des Arts de Diffusion, l'IAD, tout simplement parce que l'IAD est située à Louvain-la-Neuve et fait donc partie de l'UCL, qui est ici l'Université catholique de Louvain, donc le cadre de son film. Le Ballet Libéré, c'est son deuxième film, après La Place de l'Homme, qui est également un documentaire, dans lequel elle a donné la parole à 5 hommes de 20 à 40 ans, qui ont été confrontés à une grossesse non désirée, non prévue de la part de leur compagne, et qui, dans la plupart du temps, cette grossesse a été interrompue. Donc, dans sa deuxième réalisation, elle s'est cette fois-ci attachée à mettre en lumière une expérience de travailleuse en Belgique, donc sur son lieu d'études. Elle est revenue donc à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, pour exhumer cette histoire méconnue qui avait été un peu oubliée, celle de ces femmes de ménage de l'université qui ont licencié, ouais, elles ont licencié leur patron dans les années 70 et elles ont créé leur coopérative de nettoyage intitulée Le Ballet Libéré. Donc vous pouvez trouver facilement sur internet la bande-annonce. Je voudrais pas trop vous dévoiler toute l'histoire du film parce que c'est quand même très intéressant à découvrir, mais je voudrais quand même revenir en quelques mots sur cette expérience d'autogestion. Donc c'était le 25 février 1975, donc à Louvain. Les 37 travailleuses de l'entreprise Anik, qui se charge de nettoyer les locaux de l'université, se mettent en grève. Donc pour la plupart d'entre elles, c'était la première fois qu'elles arrêtaient le travail, qu'elles se mettaient en grève. Donc c'était une vraie expérience militante. Et c'est le début de cette expérience autogestionnaire qui va durer près de 15 ans. En fait, ça va s'arrêter au moment où l'université doit mettre en place des appels d'offres, des marchés en fait, pour faire appel à une entreprise de nettoyage. Et l'entreprise, le ballet libéré n'était effectivement pas la moins chère. Et donc, l'expérience n'a pas été poursuivie avec l'UCL. Donc le parti pris de la réalisatrice, c'est de choisir de filmer cette rencontre entre le personnel actuel de l'UCL et les travailleuses des années 70 qu'elles font revenir du coup sur leur lieu de grève avec beaucoup d'émotion. Et les points de vue sur les conditions de travail d'avant et d'aujourd'hui sont échangés. avec beaucoup de questions de part et d'autre. Est-ce que c'était plus ou moins difficile de travailler avant qu'aujourd'hui? Quelles étaient les surfaces de ménage qui étaient dévolues à chaque personne? Donc là, on s'aperçoit que, bah, à l'époque, pour faire un étage, par exemple, elles étaient trois, et qu'aujourd'hui, pour faire l'intégralité d'un bâtiment, il n'y a qu'une seule personne qui a trois heures de temps et qui doit faire les cinq étages dans son temps imparti. Et donc, le problème, c'est que les salariés ne se croisent jamais, parce que donc chacun, chacune a son bâtiment, son espace, commence très tôt, ne croise pas les autres collègues ou très rarement. Et puis comment s'organise actuellement le travail, comment c'est possible ou pas de se réunir, de discuter de ces conditions de travail. Enfin voilà, beaucoup de questions qui ont une résonance très actuelle et qui l'étaient déjà aussi à l'époque. Et le documentaire s'attache à montrer comment la solidarité de classe a permis aux travailleuses du Ballet Libéré de s'émanciper et donc de faire l'expérience de l'autogestion. Et il y a un exemple qui est donné, moi qui m'a fortement marqué dans le film et que j'ai beaucoup aimé, c'est un moment, donc le Ballet Libéré devient une vraie entreprise, donc une coopérative qui embauche, qui gère tout elle-même. Et puis il y a un moment, du travail plus qu'il n'en faut, et donc il était hors de question, ça avait été décidé collectivement, de licencier qui que ce soit. Donc afin de permettre à tout le monde de continuer à travailler, les salariés du Ballet Libéré ont fait le choix d'alterner une semaine de travail chômé, en fait, de ne pas travailler pendant une semaine pour que tout le monde puisse continuer à travailler et obtenir un salaire et donc, ne licencier personne. Donc c'est aussi un bel exemple de ce qu'on peut faire et ce qui est encore possible de mettre en place. En résumé, donc c'est un film qui, moi, m'a vraiment mis la pêche et qui montre bien que la solidarité, la lutte et l'autogestion, ça paie.
Une expérience libertaire qui fonctionne, c'est beau. C'est peut-être quelque chose même qu'on pourrait diffuser à l'UCL ce coup-ci, l'Union communiste libertaire, à la plume noire. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine projection à la plume.
Tout à fait. Tenez-vous au courant. Où est-ce qu'on peut voir ce film? Où est-ce qu'il peut être projeté? Qui donne envie d'être vu? Et puis, en effet, ça pourrait être l'occasion d'une belle soirée à la librairie La Plume Noire. On ne manquera pas de vous en reparler si c'est l'occasion. Et suivi d'une discussion tout à fait sur l'autogestion. Ça nous rappelle aussi étrangement ce qui a pu avoir lieu en France dans les 70 à Lippe, à Besançon, avec cette fabrique de monde qui avait été reprise et relancée par les travailleurs. Et puis, les usines autogérées et reprises, ça a été aussi ce qui s'est passé en Argentine il y a une dizaine d'années, durant la crise économique. L'Argentine, des piqueteros et des usines récupérées, qui étaient une belle expérience autogestionnaire. Malheureusement, le vent qui souffle en Argentine actuellement, comme dans nombreux endroits du monde, il est plus tend à l'autogestion, à l'émancipation, mais il tourne plutôt du côté réactionnaire.
Oui, il fait plutôt gris en ce moment en Argentine, mais heureusement, aujourd'hui a eu lieu le sursaut populaire qu'on attendait depuis l'élection de Milei en fin d'année dernière. Des milliers de personnes qui se sont rassemblées dans le centre de Buenos Aires pour contester les politiques d'austérité et antisociales de leur président. Et que ce soit ici ou ailleurs, nous soutenons à l'UCL les travailleuses et les travailleurs. C'est pour ça qu'on voulait relayer l'appel de plusieurs syndicats français à se rassembler ce soir devant l'ambassade d'Argentine. Ça a commencé à 18h et bon, le temps d'y aller, on sera en retard. Mais on voulait quand même en parler parce qu'il explique assez bien ce qui se passe là-bas et puis les perspectives qu'on peut attendre. C'est un appel qui suit un mot d'ordre simple. En Argentine, la démocratie et les droits fondamentaux sont en péril. Solidarité avec les travailleuses et travailleurs et les syndicats du pays. Dans son communiqué, donc, ces syndicats rappellent que Milei, entré en fonction le 10 décembre 2023, déroule déjà une politique populiste d'extrême droite, alors qu'il se disait seulement libéral, faisant peser de lourds dangers sur la démocratie et les droits fondamentaux, à commencer évidemment par ceux des travailleuses et des travailleurs. Fin décembre, le président argentin a présenté le décret de nécessité d'urgence, un genre de 49-3 de chez eux, qui lui permet de se passer du Congrès, ainsi que la loi Omnibus, qui s'attaque à plus de 300 dispositions touchant aux bases des droits des individus et des collectifs. Ces mesures remettent en cause les fondements démocratiques du pays, rompant avec la séparation des pouvoirs et violant la constitution argentine. Ce décret vise également le démantèlement des services publics, qui était clairement dans son programme déjà à la base, et le démantèlement de la protection sociale avec le licenciement de milliers de fonctionnaires argentins déjà à l'œuvre, en instaurant une austérité dévastatrice pour le modèle social argentin et les droits et intérêts des travailleuses et travailleurs. Le communiqué indique aussi que le gouvernement a rapidement publié un protocole qui a pour objectif la criminalisation de la contestation sociale, en permettant notamment un usage de la répression d'État contre toutes les formes de lutte. Parmi ces réformes contestées, on peut citer la volonté d'éliminer la justice du travail, la remise en cause de la liberté syndicale, le renforcement de la répression de l'activité syndicale, la mise en place d'une période d'essai de 10 mois pour les travailleuses-travailleurs, l'élimination en pratique du droit de grève, et enfin la suppression du droit à l'indemnisation pour les licenciements sans cause réelle ni sérieuse. Et puis on l'a vu avec Bolsonaro au Brésil, hein, le libéralisme agressif ne fait pas bon ménage avec l'environnement. Donc, dans la politique de Milei, on retrouve évidemment le démantèlement de normes environnementales. La politique de Milei témoigne de la nature profonde de l'extrême droite, peut-on lire dans ce communiqué, un danger mortel pour le monde du travail, pour les services publics, pour l'environnement, et un mépris des principes démocratiques les plus élémentaires. Voilà, donc pour résumer assez simplement ce qui se passe là-bas. Et tout ça au point d'inquiéter la CFDT, qui fait partie des syndicats qui appellent aussi à ce rassemblement. Alors, on va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est quand même bien le signe qu'il y a du souci à se faire. Ce communiqué intersyndical se conclut donc assez simplement. Nous soutenons inconditionnellement dans le processus de lutte qu'elles ont engagé pour faire face aux politiques mortifères de Milei et son gouvernement. Et pour comprendre un peu mieux comment les forces s'organisent là-bas et pour une analyse de la situation sur place, je voulais aussi vous lire l'extrait d'un communiqué de l'organisation anarchiste argentine Roja y Negra. Désolé pour l'accent, hein, ça se reproduira plus. Un communiqué qui date d'il y a quelques jours. Je suis très communiqué ce soir, hein, je sais pas ce que j'ai, mais... Donc voilà ce que dit ce communiqué. Dans cette nouvelle étape de l'avancée capitaliste, il est nécessaire de construire plus que jamais une nouvelle résistance pour faire face aux classes dominantes. En Argentine, après un gouvernement qui n'a cessé de mener des politiques d'austérité, la moitié du pays s'est retrouvée sous le seuil de pauvreté. La balance a penché électoralement vers l'extrême droite, canalisant ce mécontentement auprès d'une grande partie de la population. À cela s'ajoute la réaction patriarcale face à l'avancée des acquis du mouvement féministe. Mais la résistance populaire, même si elle est affaiblie, a recommencé à bouger, presque par réflexe, à s'organiser dans des structures qui existaient déjà, comme les organisations sociales, les syndicats et les groupes culturels et environnementaux, mais aussi en se rappelant et en remettant en pratique des méthodes d'assemblée qui étaient la nouveauté il y a 20 ans et qui persistent encore aujourd'hui, comme les formes immédiates et territoriales d'organisation de la résistance dans cette première étape. Nous pensons que la lutte sera de grande envergure et qu'il sera nécessaire de soutenir ces espaces d'articulation et permettre que d'autres se développent dans le feu de la lutte. Il est temps de recréer de la convergence multisectorielle là où nous le pouvons, reconstruire et renforcer les réseaux de la lutte depuis la base. Mais le 24 janvier ne sera pas suffisant, il doit être la date importante du début d'un plan de lutte qui doit nous amener à renverser toutes les mesures du gouvernement de Milei. Seule la construction d'un peuple fort pourra s'y opposer. Construire dans l'unité d'action et depuis en bas un plan de lutte contre l'avancée de ceux d'en haut. Pour un front des classes opprimées, salut y revolution sociale. J'avais menti, j'ai recommencé, désolé. Donc voilà, ça fait encore écho une nouvelle fois avec tout ce qu'on a dit sur l'Allemagne, la montée du fascisme, les règles environnementales qui sont bafouées. Toujours la même musique finalement.
On va revenir en France. On va revenir en France rapidement pour terminer cette émission Idées Noires. Avec un petit point quand même sur notre nouveau gouvernement. On n'a pas eu l'occasion de l'aborder dans cette émission Idées Noires. La nomination de Gabriel Attal, un Premier ministre très clairement sous l'influence de l'extrême droite. Alors sa nomination, elle est bien sûr pour nous un non-événement. Et la ligne politique, bah, ça reste la même. À droite toute, hein, que ce soit sur le plan économique ou au plan social. Et bien sûr, les quelques mois qu'il a passé au ministère de l'Éducation nationale ont mis en lumière que le bon élève de la Macronie a d'abord cherché avant tout à s'aligner à l'image de la loi Darmanin sur le programme malheureusement du Rassemblement national et à valider l'idéologie de celui-ci. Bon, ça n'a pas été vraiment un suspense, hein, la nomination de Gabriel Attal. Même les médias eux-mêmes peinaient à s'intéresser au nom du successeur d'Elisabeth Borne qui a été dévoilé le 9 janvier dernier. En tout cas, c'est encore un coup de politique spectacle de la Macronie, on pourrait dire, à travers des symboles et des annonces médiatiques, puisque après avoir été le plus jeune président de la République, après avoir nommé pour son second quinquennat la seconde première ministre femme, aujourd'hui il a choisi pour la remplacer celui qui est désormais le plus jeune premier ministre, un plus jeune premier ministre qui vient de faire son coming out, et on pourrait dire « et alors ?». Alors Macron joue peut-être avec les symboles pour le spectacle et pour le sensationnel flash et le médiatique. Il surfe sur un espèce de vernis progressiste, mais tout ça, ça sert à une seule chose, à cacher la réalité de sa politique, qui, elle, reste la même. Une politique qui est violente, une politique qui est brutale, une politique qui est raciste, une politique qui est misogyne, comme on l'a pu le voir dans son discours de protection des Gérard Depardieu et la légitimation de poursuivre les violences sexistes et sexuelles en toute impunité. On le voit chaque jour davantage, c'est un discours qui offre un boulevard, chaque jour, on le disait, à l'extrême droite. Alors les quelques mois que Gabriel Attal a passé comme éphémère ministre de l'Éducation nationale, elles ont en fait révélé un apparatchik ambitieux et cynique qui a repris à son compte une vision de l'école qui elle aussi était propre à l'extrême droite. Ses premières sorties ont pris pour cible l'abaya pour fustiger une communauté, des mesures à la fois racistes et sexistes qui fustigeaient une communauté et qui fustigeaient les filles au sein de l'institution scolaire et surtout leur tenue. Et puis ce fut un fleurilège qui depuis ne cesse, la fin du collège unique, la sélection à l'entrée du lycée, le port de l'uniforme, la défense de l'autorité des profs, etc. etc. Il manquait plus que le salut matinal du drapeau au son de la Marseillaise. Mais vous inquiétez pas, avec la généralisation du SNU, du Service National Universel, eh ben ça va bientôt arriver, ça en sera le début, puisque dès cette année, les classes de seconde vont devoir choisir en fin d'année pour justement, là encore, justifier la vaste garderie que doit être l'éducation nationale, soit de faire des stages en entreprise, soit d'aller justement dans ce fameux SNU en attendant sa généralisation. Et puis, sans surprise, le passage éclair d'Attal dans l'éducation nationale a aussi vu se poursuivre la baisse programmée des postes d'enseignants, alors que l'école publique a justement besoin d'un plan massif de recrutement de personnel qui soit formé et dignement rémunéré, que ça soit du côté des enseignants, mais ça soit aussi du côté des AESH, ces personnels qui s'occupent de l'inclusion des élèves à handicap, ou des AED, les assistants d'éducation, de personnel administratif et de bien d'autres encore. Mais c'est pas les priorités de Gabriel Attal, ancien élève de la très élitiste école alsacienne, qui est un pur produit de sa classe sociale, au même titre que celle qui l'a remplacée à la tête du ministère de l'Éducation nationale, qui est une véritable caricature. On serait allé la chercher chez les Duquesnois dans La vie est un long fleuve tranquille, qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Une caricature qui exprime son mépris de classe et qui ose même mentir sur ses choix. À une certaine époque, pour bien moins que ça, on aurait démissionné dans les 24 heures. Eh ben non, elle nous exprime son mépris de classe avec le soutien du gouvernement qu'elle sert. Un gouvernement qui sert et qui a pour but de poursuivre le programme de casse sociale, économique, écologique et sociale au prix du maintien d'une alliance tacite avec l'extrême droite qui a déjà été entamée d'ailleurs à l'occasion du vote sur la loi Darmanin, sur la loi immigration. En fait, on sait que de toute façon, qui s'appelle Gabriel, Pierre, Paul ou Jacques, c'est pas une question de personne, mais c'est bien une question de système, et que sans attendre, nous, on doit s'organiser dans nos luttes sans relâche contre l'État, contre le capital, contre cette société, pour en tenter d'en inverser la logique, en imposer une autre qui serait plus solidaire, plus égalitaire, plus libertaire. C'est notre objectif, c'est ce qu'on défend tous les mercredis sur cette antenne de ce 102.2 de Radio Canu, dans cette émission Idées Noires. Et puis on parlait de l'éducation, on aura l'occasion d'en reparler plus longuement la semaine prochaine certainement, ou même dans 15 jours. L'éducation sera en grève justement contre ces mesures de démolition du service public d'éducation, contre ce mépris de classe de cette nouvelle ministre. C'est le jeudi 1er février prochain, il y a un appel unitaire et national à une grève massive dans l'éducation nationale, là aussi pour revendiquer une éducation qui sentent pas la naphtaline et l'école de l'autoritarisme et du vieux monde dont on ne veut plus, mais une éducation au contraire qui soit émancipatrice. On vous en reparlera, rendez-vous est pris, en tout cas sans faute, dès la semaine prochaine, puisqu'il va être temps de conclure cette émission Idées Noires sur ce 102.2 de Radio Canu. On se retrouve mercredi prochain, ça sera certainement l'autre équipe, Daniel et Jou qui seront là, et puis pour une nouvelle édition d'Idées Noires de 20h à 21h sur ce 102.2 de Radio Canu. Et puis moi je vous retrouve pour l'abandon de nos révoltes juste après notre générique. Salut à tous et à toutes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Idées Noires sur ce 102.2 de Radio Canu. Yeah.